Pensée écrite.
Pensée écrite.
Vous désirez améliorer votre connaissance,
découvrir la vie et les cultures des autres?
Suivez l'émission Pensée écrite.
Pensée écrite.
Chaque page qui vous entoure renforce les tissus des connaissances dans votre esprit
et vous aide à mieux comprendre le monde qui vous entoure.
Pensée écrite.
À suivre sur Radio Maria.
Fréquence 89.9.
Animateur
Bob Kilongo.
Voilà, un plaisir de vous retrouver encore ces mercredis pour le compte de cette émission Pensée écrite. Mes auditeurs, chers internautes, quel plaisir et quel bonheur d'avoir comme auditeur intellectuel, auditeur passionné à la lecture, auditeur passionné à cette émission Pensée écrite. J'aimerais d'abord vous dire merci à Kinshasa comme à Lubumbashi. J'ai reçu pas mal de messages et d'appels. Pour le compte de cette émission Pensée écrite, il y a un auteur qui m'a contacté pour solliciter une émission. Et je vous rassure, c'est possible d'animer une émission à distance. Nous allons discuter, entrer en contact, voir comment cela va se passer avec l'équipe technique pour vous enregistrer. Parce que cette émission a pour goal de promouvoir les écrivains, excusez-moi, et puis vos œuvres. Alors, c'est mercredi, il y a le plaisir. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux grands. À chaque fois que vous passez, je vous rassure, on m'envoie des messages, on vous félicite. Et j'ai pitié parce que il y a des fois, je me dis, est-ce que ce n'est pas la mauvaise part ? L'écriture en République démocratique du Congo, mais vous-même, vous tenez. Et ça me fait du bien, ça nous fait toujours plaisir de rester collé, de rester focus à votre domaine. Je commence avec celui qui nous a quittés il y a longtemps, avant de dévoiler d'ailleurs les thèmes du jour. C'est lui qui est parti avec ses belles réflexions. Je me rappelle une fois qu'il était ici, ils étaient à Troyes pour parler de la vie des écrivains à l'ère actuelle. Il s'appelle Charon Biangula Ngando. Vous allez bien?
Je vais très bien, merci.
Comment ça évolue? Écriture, médecine, ça marche?
C'est un peu un mariage difficile, mais on tient quand même.
Vous tenez toujours?
Oui.
Je comprends pourquoi vous ne voulez pas publier, vous ne voulez pas écrire. Hein?
Je suis un peu très exigeant envers moi-même. Voilà pourquoi je passe beaucoup de temps au labo pour que mes lecteurs prochainement puissent bénéficier d'une lecture raffinée.
Apparemment, la médecine vous arrache le temps et puis les goûts de l'écriture s'envolent déjà, ça commence à partir. Hein?
Je ne le dirai pas ainsi parce que c'est deux épouses très jalouses, mais la médecine c'est la première, mais la deuxième garde sa place aussi.
Voilà, lui c'est Monsieur Marc Kaninda. Il était avec nous il n'y a pas longtemps, la dernière fois qu'on était avec vous. J'ai proposé l'émission le jour suivant, j'ai lu quelques commentaires pour vous féliciter, votre réflexion, pour vous féliciter. Il y avait un prix. Rappelez-nous encore, c'était quel prix?
C'était le prix initié par la maison d'édition Njai du Sénégal, qui avait consisté à faire appel aux écrivains de l'Afrique.
Ah ok, donc vous avez été retenu. D'abord, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là.
J'en profite aussi pour souhaiter mes voeux.
Allez-y.
D'abord à vous.
Merci beaucoup.
C'est grâce à vous que nous sommes ici.
Après une année passée.
Mais aussi, je souhaite mes voeux le meilleur à tous les intellectuels de notre pays, en général, et à tous les Congolais aussi.
Mais Charon, vous êtes aussi bénéficiaire d'un prix, apparemment.
Oui. Le plus récent, ce n'était pas vraiment la première place. C'était parmi les gagnants du prix Zamenga. J'étais troisième.
Ah,
okay. Oui. Les autres prix, ce sont des vieux prix, mais pour le plus récent, c'est des prix Zamenga.
C'est l'essentiel.
En passant, j'en profite aussi pour souhaiter les vœux de meilleur à vos auditeurs et à vous également.
Merci beaucoup. Vous vous connaissez?
Bien sûr.
Oui, on se connaît.
Parce que
Monde littéraire est tellement petit, on se connaît tous un peu. On est un peu comme, je peux dire, Vatican. Donc, on n'est pas très nombreux. Du coup, on est obligé de se connaître un peu tous.
Mais j'ai reçu un grand ici une fois. Il a parlé. Bon, en fait, il n'était pas là pour casser les sucres sur vos dos. Mais il a parlé des jeunes qui ne veulent pas, comme disait un auteur, monter sur les épaules des adultes, Emile Zola. Donc, vous ne voulez pas les consulter, vous avez créé votre bloc et vous voulez marcher seul. C'est vrai, apparemment, c'est ça.
Je sais que mon grand va me compléter. Ma réponse est simple. Mm. Vous voyez, dans notre monde littéraire, nous vivons un peu comme des orphelins. La littérature congolaise, contrairement à d'autres pays, elle n'a pas évolué de génération en génération. Mm. Il y a eu une cassure à un moment donné, on ne parlait pratiquement plus des livres. Mm. Les écrivains qu'on connaissait tous avaient tous disparu presque de la nature. C'est comme ça que tous les jeunes passionnés de la lecture, passionnés de l'écriture, ont évolué un peu en orphelin, aidés par des structures telles que le Centre Wallonie Bruxelles, l'Institut Français, qui essayaient un peu d'organiser des concours par-ci, par-là, des activités. C'est comme ça qu'ils s'est retrouvés entre eux de temps en temps et ont créé cette affinité entre eux. On n'avait pas vraiment des références de lieux ou bien de personnes précises chez qui on pouvait aller toquer, se renseigner ou quoi que ce soit. Ce n'est pas qu'on ignore les grands, on ne peut jamais venir bâtir sa maison sans se renseigner sur les anciens. Mais c'est juste qu'il n'y avait pas d'anciens. C'était un peu comme un désert. Les anciens, soit ils avaient laissé un nom, soit ils avaient laissé l'écriture pour se reconvertir à la politique, soit ils avaient voyagé, ils sont à l'étranger. Mm-hmm. Et on n'avait pas la facilité d'entrer en contact avec eux. Moi particulièrement, il y a deux ou trois grands écrivains de notre pays. À mes débuts, j'ai essayé d'entrer en contact avec eux. Je leur ai laissé des mails, plusieurs mails. Il n'y a qu'un seul qui m'avait répondu. Malheureusement, il était mort quelques jours après. Nos échanges sont restés sans évolution. Mmh. Vous voyez, un peu dans une situation pareille, on se retrouve seul, obligé de contacter les gens de sa génération ou bien d'évoluer en solo. C'est un peu ça notre condition actuelle.
Monsieur Marc, vous avez quelque chose à ajouter?
Oui, à ce propos, je pourrais dire que c'est vrai qu'il y avait une sorte de division entre les anciens et les vieux. Mais récemment, les jeunes, avec Richard Ali à la tête, avaient accepté de se réunir avec les anciens, l'Union des écrivains du Congo, dirigée par le professeur Mathias Boboaka Yembe.
Okay.
Donc, ces gestes symboliques et importants avaient sonné comme une sorte de réconciliation entre les deux générations.
Lorsque vous dites que vous vous sentez orphelin, pourquoi? Parce que les gouvernements, au niveau de la sommité, n'êtes pas en fait intéressés, vous êtes abandonnés. Voilà pourquoi vous vous sentez orphelin.
C'est un peu dans le sens où vous voyez la transmission des lignées. Au fait, on n'a pas eu beaucoup d'écrivains congolais présents sur scène ou bien présents à nos côtés pour nous encadrer, pour nous conduire. Premièrement, c'était leur absence. La plupart d'entre eux soit étaient en Europe, soit étaient en politique, soit avaient abandonné l'écriture. Et on était un peu comme une génération spontanée qui part de nulle part pour se battre seul. C'est dans ce sens-là qu'on est orphelin. Dans l'autre sens, on n'a pas une structure précise ou bien un soutien particulier du gouvernement ou bien d'une structure particulière qui nous a beaucoup appuyés pendant longtemps. C'est nous-mêmes, les jeunes, avec des associations comme l'Association des jeunes écrivains, qu'on a commencé nos structures, qu'on a commencé nos efforts. Et quand les vieux sont revenus, on a eu à leur remettre leur respect, à retourner à leurs pieds.
Très bien. Vous vous sentez aussi orphelin, monsieur Marc?
Bon, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'on ne se sent pas comme des orphelins. Ce serait nier la réalité. Alors, notre souhait, c'est que les anciens, comme le doyen qui vous a parlé l'autre fois, s'il estime qu'il peut nous donner des conseils, alors nous sommes ouverts pour ça. Mmh. Et il peut contacter ou l'ancien communiqué ou donner ses coordonnées. Et personnellement, je le contacterai pour avoir plus de conseils de sa part.
Voilà, des anciens, vous avez droit à vivre ensemble avec les jeunes parce que ils ont de l'avenir. Ils ont de l'avenir. Ils passent ici. Vous sentez les niveaux de réflexion, vous sentez l'écriture, mais abandonnez non seulement les jeunes, mais aussi la sommité aussi. Vous devez quand même organiser les choses pour la réussite de ces domaines. Allez, aujourd'hui, nous l'avons constaté, la lecture, vous le savez, la lecture occupe une place essentielle dans la vie de l'être humain. Elle permet non seulement à acquérir des connaissances, mais aussi à développer l'imagination. Charon l'avait soulevé ici quand on était hors micro. Et l'esprit critique également. Quelqu'un qui lit beaucoup n'accepte pas n'importe quoi. Là, je salue paix à son âme. Le professeur Lino Pung qui a parlé, qui a écrit un livre Éducation aux médias où dans ses livres il a parlé de éducation aux médias, éducation par les médias où on donne au lecteur ou aux journalistes, aux communicateurs l'esprit de critiquer. On ne peut pas vous faire avaler des couleuvres comme ça. Il faut critiquer. Ça va, je ne peux pas. Donc cet esprit là. Commence à s'envoler. Voilà pourquoi notre thème d'aujourd'hui, la culture de la lecture en République démocratique du Congo à l'ère actuelle ou l'ère du numérique. Quand je vous ai proposé ces sujets, illico presto, quelle a été votre réaction? Je commence avec vous, monsieur Marc.
Oui, j'étais content parce que c'est très capital. À l'ère actuelle, à l'ère numérique, on a l'impression que beaucoup de gens, les jeunes surtout, ont pratiquement abandonner les livres traditionnels. Et lorsque vous nous avez parlé de ces sujets, moi j'étais excité et je me suis rappelé aussi de l'année passée où on avait tenu une conférence dans une école, l'école Saint-Étienne ici à Limité sur la 3e rue, où justement on a parlé de l'importance de la lecture aux élèves et c'était merveilleux. Alors en venant ici, j'avais un sentiment de bonheur, puisque étant un activiste littéraire, je sais qu'aujourd'hui, je parlerai de l'importance de la lecture. Je donnerai quelques conseils sur comment lire à l'ère numérique.
Charon?
Oui, moi, j'étais très, très, très content parce que ça touche les deux domaines que j'ai embrassés dans la vie. Ça touche la médecine et l'écriture. D'ailleurs, je voudrais répondre à la question de l'importance à la lecture en tant que médecin et en tant qu'écrivain. Premièrement, en tant que médecin, la lecture est très capitale parce qu'elle développe des capacités cognitives. Les capacités cognitives sont les activités, les capacités qu'on utilise usuellement dans la vie quotidienne. L'émotion, le langage, la mémoire. Et lire, c'est l'une des grandes activités qui développe ses capacités cognitives. Donc un esprit qui lit développe sa mémoire, un esprit qui lit a un langage enrichi, un esprit qui lit a une émotion bien travaillée. Ça, c'est un aspect en tant que médecin, c'est le conseil que je donne aux gens et je connais les bienfaits de l'écriture. Donc, en tant qu'écrivain, je connais aussi les bienfaits de l'écriture parce qu'on ne peut pas devenir écrivain sans passer par la lecture ou bien on ne peut pas écrire sans être assuré que les gens vont nous lire. Du coup, c'était un thème qui m'avait particulièrement passionné et dont je suis venu avec tous les arguments possibles pour convaincre et encourager les gens à la lecture. Avant d'y aller plus loin, j'ai lu quelque part les statistiques qu'un centre, je crois, de recherche congolais local avait organisé sur la lecture. Ils ont constaté que de 2007 jusqu'à 2023, le taux de lecture des gens qui se reconnaissent lire au moins un magazine par jour était passé de 27% à 11% chez les hommes et de 9% à 5% chez les femmes. Ce qui montre que la lecture est en déclin chez nous et les gens lisent de moins en moins. D'ailleurs, à l'époque, 27% ne pouvaient pas se contenter de ces chiffres, mais descendre jusqu'à 11%, ça montre que c'est vraiment catastrophique. La situation est vraiment urgente.
Très bien. Mais, vous pensez que l'arrivée à l'ère actuelle, les numériques, bouscule un peu votre domaine? Parce que vous écrivez, mais les gens ne prennent pas le temps de vous lire. On préfère aller sur Internet, enregistrer ou écouter directement, en fait, vite, à la place de rester longtemps devant un livre. Le numérique bouscule aussi votre domaine?
Oui, le numérique apparemment a porté un coup sur les livres traditionnels. Et bon, je pense aussi que c'est question de discipline, de manque de discipline de notre part, puisque le numérique aurait pu booster les secteurs littéraires ou les secteurs d'écriture. Mais, curieusement, et c'est dans le mauvais sens, la réalité est que les jeunes, ou peut-être pas seulement les jeunes, mais la réalité est que la population semble avoir abandonné la lecture traditionnelle pour s'orienter vers la culture de regarder des vidéos et consorts. Alors, c'est quelque chose de néfaste, mais je pense qu'avec une prise de conscience, on peut utiliser le numérique à bon escient. Et d'ailleurs, ça faciliterait les choses. Avec le numérique, on peut avoir une centaine de livres dans un téléphone. Comme ça, on peut télécharger des ouvrages et on peut suivre des vidéos éducatives à moindre coût aussi. Il suffit d'avoir quelques mégas pour télécharger des livres, pour passer du temps à apprendre l'essentiel qui apportera un plus dans notre vie. Apprendre par exemple une langue, à analyser des faits et consorts. Alors, le numérique, c'est quelque chose de très positif, mais il faut un maximum de discipline pour l'utiliser à bon escient afin d'évoluer dans la vie.
Vous, en tant qu'écrivain, vous pensez que la lecture est importante dans la vie d'un être humain?
Oui, la lecture
est indispensable. À l'ère actuelle.
À l'ère actuelle, la lecture est indispensable. Je vais donner l'exemple de mon neveu. Il est entré à l'école cette année. Avant, il ne connaissait pas l'alphabet française. Alors, c'est grâce à la lecture qu'aujourd'hui, à son âge, il est à l'école gardienne. Il récite, il connaît l'alphabet, il récite, il chante, il connaît beaucoup de choses. C'est parce qu'il a lu, parce qu'il lit à l'école.
Mais Sharon, les réalités sociales n'arrangent pas beaucoup de gens à se tenir longtemps devant les livres. On préfère peut-être écouter. Il y a des versions où les livres, en tout cas il y a la traduction, on écoutait et puis on comprend quelque chose. Est-ce que cela ne facilite pas la compréhension peut-être à la place de rester si longtemps devant les livres, tenir les livres et... N'est-ce pas que c'est les numériques aussi à apporter quelque chose de plus?
Oui, merci beaucoup pour cette question. Moi personnellement, en réfléchissant sur le sujet, j'ai trouvé que je voulais rebondir sur ce que Marc a dit. Les numériques ne nous apportent pas un coup fatal. Ils viennent nous aider par contre. En lisant l'article que j'avais lu récemment sur le taux de lecture dans notre pays, on a essayé de décortiquer, de donner les différentes raisons qui expliquent pourquoi le taux de lecture a diminué dans notre pays. Et la plupart de gens qui ont été interviewés, ils ont eu à évoquer comme principale cause le manque des livres, l'indisponibilité de livres. À l'époque, par exemple, il y avait, les écoles n'avaient pas tout le temps des livres, mais il y avait toujours une paroisse à côté qui avait une bibliothèque de la paroisse. Les gens du village partaient lire à la paroisse. Et actuellement, avec les populations qui se concentrent dans des grandes villes, on n'a pas toujours les paroisses dans tous les coins des rues. Les gens comptent sur les écoles, les universités. Or, la plupart des écoles, si vous faites les tours dans toutes les écoles de la ville de Kinshasa, qui est la capitale du pays, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui ont des bibliothèques chez elles. Et même les bibliothèques, les écoles qui ont des bibliothèques, faites un parcours des rayons, vous verrez que la plupart des livres sont vieux ou bien sont des livres qui sont remplacés par des cahiers ou bien des notes. Je prends un exemple de la plupart des universités. Si vous partez dans les bibliothèques des universités, vous verrez qu'il y a plus de TFE, des travaux, des TFE que des travaux de recherche, de livres en réalité. Et ces manques des livres font en sorte que les gens sont découragés à aller lire. Les gens n'ont pas une motivation, n'ont pas un lieu où ils peuvent décortiquer, où ils peuvent sortir un livre à lire. Et avec le numérique qui nous disponibilise beaucoup de livres, avec des livres de téléchargement gratuits, je pense que cela peut être un élément qui peut booster la lecture. Il faudrait juste orienter les gens. Il faudrait juste montrer l'exemple. Dans notre système de formation, on a appris aux jeunes particulièrement, à lire pour réussir. Et lire devient comme une corvée. Lire devient comme un devoir. On ne lit pas par passion, on ne lit pas pour nous-mêmes, on lit pour les autres, pour répondre à une question à l'école et passer des promotions. Je pense que c'est là où il y a les billets de formation. Si on apprenait aux gens de lire pour leur bien-être, pour lire pour leur bien, pour se sentir mieux, parce qu'en y allant, je voudrais y rebondir rapidement. Je sais que je suis en train de mélanger des réponses à deux questions différentes. Les bienfaits de la lecture sont énormes. Le plus grand bienfait que je peux évoquer rapidement, c'est la bibliothérapie. Le fait de se sentir mieux en lisant. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont déjà expérimenté ont déjà eu cette expérience, mais en lisant, on se sent mieux. Pourquoi? Parce que notre cerveau utilise un aspect d'intelligence cognitive, c'est-à-dire développe l'émotion, nous met à la place du personnage, on essaie un peu de décortiquer ses émotions, de voyager dans son monde. Et cela nous donne un aspect qu'on appelle, on développe l'intelligence émotive. Et c'est cela qui nous met dans une situation de bien-être, en fait. On est soulagé, on voyage, on participe dans des événements où on n'est pas physiquement. C'est un aspect très capital qui est un avantage de la lecture. Un autre avantage de la lecture, la lecture aide les gens à ne pas vieillir rapidement. La lecture aide les gens à développer leur mémoire. La lecture aide les gens à avoir plus de connaissances. La lecture a tellement d'avantages que ça ne devrait pas être une corvée, ça devrait être une passion pour tout le monde.
De quelle vieillesse que vous parlez ? Vieillesse physique ou vieillesse intellectuelle ?
Bon, ça, c'est un aspect médical. je brosse ça rapidement. Plus on lit, plus on développe les connexions entre les neurones. Les neurones sont les petites cellules dans le cerveau qui nous permettent un peu de faire tout le boulot que le cerveau fait. Et plus on lit, plus on renforce les liens entre ces neurones. On travaille un peu, on leur fait travailler en groupe. On leur fait travailler en union, en fait. On unit un peu les neurones, on développe nos capacités, notre mémoire. Et plus on développe ces genres de capacités, plus on ne vieillit pas facilement comme tous les gens de notre âge qui sont, à un certain moment donné, obligés ou bien contraints à faire des maladies des AVS comme les Alzheimer ou bien les maladies de Parkinson. Donc, c'est un avantage de la lecture. Et c'est comme ça que j'évoque un peu l'anecdote que les gens se disent souvent à la cité que le professeur de l'école primaire ne vieillisse pas. Ils se disent souvent ça. C'est justement parce qu'ils font travailler leur cerveau, ils lisent beaucoup, ils répètent tout le temps. Et c'est là le rajeunir leur cerveau qui se répercute sur le corps.
Très bien. Mais n'est-ce pas que vous êtes responsable écrivain ? Vos titres ne fascinent pas. Vos titres restent un peu plats. Voilà pourquoi les gens préfèrent aller ailleurs, parce qu'il y a des titres incitatifs qui attirent les gens, des titres informatifs. N'est-ce pas que vous êtes aussi responsable ?
On n'est pas totalement responsable parce que, croyez-moi, je crois que mon frère Marc va les compléter. Tout écrivain, après avoir écrit son livre, il passe de nombreuses heures à chercher un titre. Tout le monde a toujours l'impression que le titre n'est pas bon parce qu'il veut qu'un titre qui accroche. Quand vous lisez le titre, vous êtes attiré par le livre. Personne ne peut avoir un titre complaisant. Donc, dire qu'un titre décourage, c'est déjà l'échec de l'écrivain. Donc, tous les écrivains, quand ils écrivent, leurs titres sont pris pour attirer le lecteur. Et ainsi, quand on a un titre qui attire les lecteurs, peut-être le problème que moi, je peux évoquer, c'est le manque de disponibilité de livres. Si le livre n'est pas dans un rayon d'une bibliothèque qu'un élève a fréquenté, comment est-ce que cet élève va lire ces livres? Je prends un exemple tout court que j'avais évoqué la fois passée. La plupart de nos livres restent dans la grande commune des Gombe. On écrit, nos livres sont souvent exposés dans les grandes bibliothèques de l'autre côté. Par contre, la plus grande population de notre pays se trouve à Tchangou, dans les fins fonds. C'est ce qui fait que la plupart de nos livres ne sont pas lus par les jeunes des écoles éloignées. Et aussi, un autre problème que je voudrais évoquer, c'est le manque. Notre système d'éducation n'a pas intégré les livres des écrivains congolais dans le cursus des étudiants. Donc, du coup, la plupart des écrivains congolais ne sont pas connus par les élèves et par les étudiants. Ce qui fait que nos livres ne sont pas lus ou bien il n'y a pas de livres à la disponibilité de la plupart des jeunes. Et le deuxième problème, la deuxième cause peut être le fait que je vous ai évoqué tout à l'heure. Les gens lisent par contrainte, pas par passion. Ils ne font pas du livre leur ami. Et du coup, un peuple qui ne lit pas, c'est un peuple qui est obligé à revivre l'histoire en boucle. Donc, ils sont obligés à répéter les mêmes erreurs, à ne pas lire, à rencontrer les mêmes obstacles parce qu'ils ne veulent pas aller au-delà des obstacles.
Je reviens vers vous, Monsieur Marc. Vous avez choisi ces domaines, ces mondes de l'écriture. On nous accuse que pour cacher une vérité, il faut mettre noir sur blanc. Surtout les Africains, mais vous choisissez, et votre choix c'est l'écriture pour lire alors que la lecture est tellement critiquée, les gens ne veulent pas lire, surtout on désire lire quand il y a un besoin, une recherche, mais quelqu'un prendre le temps, lire un document ou un livre, c'est difficile. Comme a dit Sharon, non, en fait, maintenant, là, ce n'est pas une passion, la lecture. En fait, sinon, je vais faire une recherche sur tel domaine, alors je vais chercher des livres. N'est-ce pas que vous êtes un peu perdu quand vous écrivez, vous nous proposez et les gens ne désirent pas vous lire. Donc, vous faites, vous, comme les Français disent, vous peignez de la girafe.
C'est comme si nous, le Congolais, on lisait par nécessité. Donc, quand on a besoin de quelque chose qui est de manière pressante, on est obligé de recourir sur un document pour lire et trouver une solution. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. La lecture, c'est une évasion. La lecture, c'est une distraction. La lecture apporte beaucoup de choses positives dans la vie de quelqu'un. Alors, c'est vrai, c'est un constat amer, mais Pour moi, je pense que il faudrait changer les choses au niveau de l'école et même dans les familles. On doit conscientiser la masse. On ne doit plus dire aux apprenants que la lecture, c'est quelque chose qu'il faut recourir en cas de nécessité. Non, la lecture, c'est un délice. La lecture, c'est une distraction comme tant d'autres. C'est un peu comme suivre le foot ou aller jouer aux jeux vidéo. Et pour cela, c'est le grand travail qui doit être fait, pas seulement par nous, les écrivains, mais aussi surtout par les éducateurs. Il faut vraiment initier ou conscientiser la masse sur l'importance de la lecture, qui est quelque chose d'indispensable dans le développement de tout un chacun, mais aussi dans le développement de tout un peuple.
Voilà. Mais on parle de l'éducation des bases. Vous écrivez, apparemment, vous écrivez pour les adultes. Les petits-enfants, là, parce que vous faites allusion aux familles, et ces enfants, les petits-là, vont lire quoi? Parce qu'il n'y a pas des gens qui écrivent pour les enfants maintenant. Là. Bon, vous nous proposez des thèmes. Des thèmes un peu qui concernent les grands, les vieux, les enfants alors. Parce que vous avez parlé des familles.
Oui, non, moi c'est vrai que j'écris plus pour le public un peu adulte. Mm. Mais il y a des écrivains qui sont spécialisés qui produisent des textes destinés aux enfants. Oui. Il y a des BDistes, par exemple, ils sont nombreux même. Mm-hmm. Et je pense même qu'il y a plus de BDistes que des romanciers. Exactement. Ou des nouvellistes. Oui. Mais le plus grand péché, je peux employer ces mots, c'est que la chaîne du livre, telle qu'elle existe dans des pays développés, malheureusement, chez nous, il n'y en a pas. Normalement, l'écrivain, la chaîne du livre se présente de la manière suivante. Il y a l'écrivain qui écrit, il envoie son manuscrit dans la maison d'édition. Une fois la maison d'édition valide les manuscrits, la maison d'édition décide de produire les livres en question. Et elle va contacter les libraires. Donc, la librairie, c'est comme une boutique où on vend les livres. Alors, il y a cette liaison-là entre l'écrivain, l'éditeur, et les distributeurs, enfin, les libraires. Oui, c'est comme ça que normalement la chaîne du livre se présente dans des pays développés. Malheureusement, ici chez nous, parfois et souvent même, l'écrivain est obligé de tout faire. Puisque les éditeurs professionnels n'existent pratiquement pas. Les libraires sont parfois habités à plusieurs difficultés. Et les distributeurs, n'en parlons même pas. C'est comme s'ils n'existaient pas.
Monsieur Charancy, aujourd'hui, il faut apporter un conseil ou proposer quelque chose à nos auditeurs et internautes à ce qui concerne la lecture à l'ère du numérique. Vous direz quoi? Qu'est-ce que vous pouvez proposer à ces gens-là? Parce que petit à petit, vous avez parlé des sondages ou quoi? Oui. C'est que vous avez dire là. En fait, les constats restent amers. Qu'est-ce que vous proposez?
Oui, merci beaucoup pour la question. J'aimerais revenir sur ce qu'il a dit. Il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent toutes sortes de livres. Il y a tout genre de livres qui sont produits tout le jour par les différents écrivains de notre pays. Pour dire que on ne peut pas, c'est juste que c'est la recherche qui manque. On ne peut pas se plaindre qu'il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas des gens qui écrivent. Ce qui est écrit est là. Il se fait juste d'aller le chercher. Et comment aller le chercher? C'est quand on a une passion, on a l'envie d'aller le chercher. Et tout commence depuis la petite enfance. Tout s'est construit depuis l'enfance. Je pense que les familles ont des grandes responsabilités dans la culture des livres. Si les familles encourageaient les jeunes, disponibilisaient les livres dans leur maison, un jeune, un jour, s'il n'y a pas de connexion Internet, il recourirait à un livre qui est quelque part pour passer du temps. Et je pense que par ce chemin-là, il va découvrir le bienfait du livre. Deuxièmement, j'incrimine un peu aussi l'école en deuxième position. L'école a un grand rôle à jouer dans la culture des lectures. Quand dans une école, on ne lit que par contrainte, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de livres. Dans cet environnement, aucun jeune ne va avoir cette envie, cette culture de lire. Je donne mon propre exemple. À l'école, aux humanités, on nous avait donné un devoir, je crois punitif, sur les tests sur l'albatros. Ce devoir, on l'a fait tous par contrainte. On est venu, on a ramené le notes qu'on n'avait pas tous réussi avec brio. Mais quelques semaines après, le même test qui était resté, j'étais resté avec une copie. Je me suis retrouvé avec cette copie, c'était les vacances, avec la copie entre mes mains. J'ai essayé de relire autrement les tests. J'étais tout ému. J'ai ressenti toutes les émotions sur chaque rime, sur chaque vers, parce que j'avais l'impression que l'auteur m'amenait dans son univers. C'est parce que je ne lisais pas par contrainte, je lisais par passion. J'étais emmené dans le monde de l'écrivain. C'est comme ça que si on a des livres à notre disponibilité, je pense que le jeune sera un jour tenté à lire. Et un troisième élément que j'aimerais évoquer, c'est l'environnement qui peut nous influencer à la lecture. Si le média en parle comme vous le faites aujourd'hui, si la télé le montre tout le temps, si on mettait un peu un accent sur les écrivains qu'on a ici, par-ci, par-là, je pense que la passion naîtra. On ne peut pas attendre qu'elle puisse naître d'un jour à un autre, mais elle sera étalée dans les temps. Avec les temps, les gens vont avoir la culture de lire parce qu'on parle tout le temps des écrivains. Ils veulent, par curiosité, découvrir cet écrivain. Et je pense qu'avec les temps, on va inverser le rôle. On va essayer d'influencer les statistiques à notre avantage. Et je pense même que la plupart des problèmes dans la société actuellement sont dus au fait que les gens ne lisent pas. J'évoque les problèmes que tout le monde connaît, le problème de la guerre à l'Est. Je pense que le plus grand obstacle de ce problème, c'est le manque de lecture. C'est parce que les gens ne lisent pas. Les gens ne connaissent pas l'histoire, les gens ne connaissent pas notre histoire. C'est comme ça que tout le temps, les gens se sentent un peu désintéressés parfois, ou bien les gens ne comprennent pas ce qui se passe. C'est parce qu'ils ne lisent pas, ils ne préviennent peut-être pas le problème en amont, parce que ça a été écrit, si vous lisez la plupart d'écrits sur le Congo, on a parlé des différents conflits qui sévissent déjà à l'Est. Et j'ai suivi récemment un homme politique très connu qui passe souvent des émissions, il parle un peu du Congo. J'ai beaucoup aimé ces histoires qu'il donne. Et à la fin, il a donné un secret tout à fait simple. La plupart de ses connaissances, il les tire des ouvrages. Ce qui veut dire qu'il y a des livres quelque part qui racontent notre histoire et que toute personne, tout Congolais, pourrait entrer en contact avec notre histoire pour comprendre ce qui se passe à l'Est, pour les prévenir peut-être dans le futur. Je pense que c'est un des grands problèmes qui montre que le manque de lecture est un problème majeur pour notre pays.
En vous entendant parler, c'est comme si les livres numériques ne peut pas remplacer totalement les livres en dur comme ça.
Le livre numérique ne pourra jamais remplacer les livres en dur parce que les livres numériques ont toujours son petit côté magique. Les livres numériques, c'est le livre dont tout le monde est habitué. Il y a des personnes qui lisent mieux quand ils ont un livre entre les mains. L'odeur de feuilles, ça les motive à lire. Mais on ne peut pas être fixiste au fait. Il faut qu'on soit large, qu'on soit tolérant. Si les livres numériques arrivent, on doit lui accorder aussi sa place parce que parfois, il compense les manques des livres dans la société. Le livre numérique, c'est un moyen de transmettre les livres à tout le monde, mais ce n'est pas le moyen idéal. Pourquoi ? Parce qu'il tue un peu l'importance de l'écriture. Un écrivain qui écrit pour rester en mode numérique est un peu découragé parce qu'il ne va pas avoir beaucoup de revenus. Et en même temps, c'est aussi un avantage qui permet aux lecteurs d'entrer en contact facilement avec son livre. Donc je crois qu'on ne peut pas interdire aux livres numériques de prendre sa place, mais tout autant, on ne peut pas aussi exclure les livres en dur, en papier.
Voilà, nous rappelons à nos auditeurs, c'est une émission en direct, hein, la culture de la lecture en République démocratique du Congo à l'ère du numérique. Lentement, on commence à toucher les dernières lignes de cette émission. Monsieur Marc, vous avez évoqué les problèmes des familles, vous avez évoqué l'école, vous avez parler de l'importance de cette lecture et cette culture. Vous nous proposez quoi? Parce que ces enfants, les parents, tout le monde a aussi besoin de votre proposition. Nous sommes là aussi pour ça, parce que si aujourd'hui cette culture disparaissait, je ne sais pas, vous écrivain, vous serez à l'aise, je ne pense pas que vous serez content. Qu'est-ce que vous proposez maintenant là, bon, aux parents, à tout le monde?
Je pense que tout un chacun de nous, on doit vraiment prendre conscience de l'importance de la lecture dans le développement humain. Parce que sans la lecture, l'homme ne peut pas faire de grandes choses. Pour exister, pour subsister, il faut emmagasiner des connaissances, il faut apprendre. Et la lecture est l'activité qui nous permet justement d'apprendre et de transformer, de créer, de faire ceci et de faire cela. Alors, Je parlerai en premier lieu du rôle de l'État, le ministère de la Culture et aussi le ministère de l'Enseignement qui, de mon point de vue, doivent s'imposer sur cette question. Puisque la lecture, surtout pour un pays comme le nôtre, qui est un pays envié, convoité, un pays qui est victime de plusieurs complots, le citoyen congolais doit être à la hauteur des enjeux de la République démocratique du Congo. Le citoyen congolais doit connaître l'histoire, doit connaître la géopolitique. Le citoyen congolais doit connaître ces minéraux qui sont tant convoités. Et c'est à travers la lecture que le Congolais sera à la hauteur des enjeux nationaux. Et pour cela, on doit être assisté par les autorités. Mmh. C'est vraiment très capital. On doit réformer le système éducatif. On doit aider les associations qui militent pour les livres, pour la lecture. Et les parents aussi. Les parents aussi doivent savoir que tout ne viendra pas de l'État. Et à leur niveau, ils doivent agir aussi. Pourquoi pas offrir des cadeaux, des livres aux enfants pendant la Noël, par exemple, ou pendant les grandes vacances. Tout un chacun de nous doit prendre conscience, doit se réveiller. Puisque la question des lectures, c'est capital, c'est très important. Ce n'est pas un jeu comme ça. C'est vraiment très, très, très important.
Je vais vous faire rire. J'avais fait un tour à Matadi, à mon retour. J'avais avec moi un sachet là, bombé. Et quand mon épouse a vu le sachet, elle était contente. Et par après, c'était les livres. C'est comme si j'avais apporté des bombes à la maison. Comment tu peux revenir avec des livres?
Exactement. J'aimerais vous compléter aussi un truc. C'est que Marc a dit un truc très capital. Vous voyez, dans notre société, on a un grand problème. La disponibilité de livres est un très grand enjeu. La plupart des livres pourraient être produits avec les coûts de papier, coûts de transport, coûts de l'impression. Ça fait en sorte que la plupart des livres se vendent un peu en dollars. Un livre commence à être vendu à 10, 15, 20 dollars. Or, nous avons une population qui vit avec moins d'un dollar, je pense bien, qui se bat au jour le jour pour gagner son pain. Cette population-là, on verra, n'importe qui va dire que, n'importe quelle personne qui pourrait prédire va dire qu'une personne pareille qui vit avec moins de dollars par jour ne va pas dépenser 15, 20 dollars pour acheter un livre. Je crois que c'est un très grand problème. Comme il a dit, le gouvernement ou bien le ministère de tutelle devait nous aider à faire un peu... à bien gérer le monde du livre, en fait, à faire des subventions, aider à ce que le livre soit vendu à moins cher ou bien le coût de la production soit rabaissé pour que le lecteur puisse entrer en contact facilement avec le livre. Parce qu'on ne peut pas se cacher la face. L'éditeur veut manger quelque chose, le libraire va manger quelque chose, l'écrivain va manger quelque chose, mais tout cela sera sur le dos de qui si tout est surtaxé. Et le deuxième point que je voudrais compléter rapidement, c'est que si on reproche à nos jeunes d'être tout le temps devant les écrans, alors on a une solution simple. Introduisons des livres devant leur écran. Ça va essayer de résoudre le problème en partie. Je crois qu'on ne peut pas continuellement se plaindre du fait que les gens ne lisent pas. On doit chercher des moyens, des mécanismes.
Et surtout à l'heure actuelle, il faut contourner aussi le numérique. Parce que
exactement.
Je pose cette question à vous deux.
Oui.
N'est-ce pas que les lecteurs nous quittent ou vous quittent pour le monde numérique parce que c'est difficile de trouver des bibliothèques avec des livres.
Je crois que vous avez en partie raison, parce que la réalité est que c'est vraiment difficile de trouver des bibliothèques. À Kinshasa, par exemple dans ma commune, je pense qu'il n'y a qu'une seule bibliothèque à Lemba.
Aussi, il n'y en a pas d'ailleurs. C'est difficile d'en trouver. J'en cherche, mais je ne trouve toujours pas.
Et aussi à Bandal, les centres culturels ferment de temps en temps.
J'apprends qu'il y a avoir de fermer.
Exactement. C'était une très grande déception. Moi, je pensais que le peuple, toute la ville allait s'enflammer. C'est un deuil national. Mais j'ai trouvé que c'était transformé en un bar ou un truc comme ça. Vous voyez un peu les centres culturels, les centres, les bibliothèques, les libraires n'ont pas beaucoup de vie parce que beaucoup de livres ne sont pas disponibles. Mmh. Beaucoup de gens n'achètent pas. Et vous voyez un peu que dans 5-10 ans, si on continue avec le même rythme, on risque d'entrer en pénurie nationale du livre.
et c'est pourquoi j'avais parlé de l'implication de l'État. C'est l'État qui a beaucoup de moyens, et notamment dans la création de la chaîne du livre. Il faudrait que l'État, comme à l'époque de Mobutu, puisse créer une maison d'édition qui sera subventionnée par l'État lui-même et disponibiliser des librairies nationales et aussi avec des distributeurs. Des distributeurs comme agents de l'État, cela simplifierait la démarche qui permettra au peuple, à la population, d'avoir des livres comme ça.
Quand vous êtes en face de moi, permettez-moi de vous attaquer. Hein. Vous, après vos publications, parce qu'on a parlé des familles, on a parlé des écoles. Est-ce que vous partez aussi dans des écoles mobilisées avec ce que vous avez comme ouvrage, comme publication? Vous faites cela, ça vous arrive?
Oui, personnellement, j'étais l'année passée à l'école Saint-Étienne, je viens de le dire même. C'était dans le cadre d'une campagne pour sensibiliser les élèves sur l'importance de la lecture. Et à l'occasion, j'avais fait un don d'un exemplaire de mon livre, L'Implacable Kinshasa. Et en dehors des écoles, j'ai l'habitude d'aller dans des bibliothèques pour faire, si pas vendre les livres, faire des dons. Et j'ai fait aussi des dons à des personnes physiques. Donc, dans mon côté, avec les peu de moyens que je possède, dont je dispose, j'essaye de faire la promotion de la lecture, mais aussi de mes œuvres littéraires.
Marc a tiré les draps de son côté. Et Sharon, qu'est-ce qu'il pense? Il pense à quoi?
Je plaide un peu coupable parce que contrairement à lui, je suis passé dans une école, je me rappelle bien, à l'époque 2022, quand mon livre sortait. Je suis passé dans une école sur invitation d'un ami écrivain qui était maître d'une école. Et j'ai animé avec les jeunes un atelier d'écriture. À la fin, je leur ai donné mon livre et je crois bien avoir fait ça une fois, mais c'était sur invitation. Une fois, j'ai tenté d'aller dans une école, mais il fallait suivre une longue procédure, voir les procureurs, pour les promoteurs. C'était une longue procédure, je m'étais découragé en cours de route. C'est vrai que au nom de la plupart des écrivains, j'ai plaidé coupable parce que on ne suit pas souvent les livres comme ça. Et les livres a une demi-vie de moins de 5 ans généralement. Quand on produit un livre, généralement au-delà de 5 ans, on ne fait plus des efforts de promotion, on se concentre sur le nouveau livre ou bien sur un autre projet. Je pense que c'est un peu un autre défaut. Mais quand j'ai essayé de lire l'histoire des autres écrivains, j'ai compris qu'on n'est pas tant que ça fautif. C'est comme ça que ça se passe dans le monde de l'écriture. On ne peut pas être focalisé sur un seul livre pour toujours. Il faudrait peut-être le travail du producteur, de l'éditeur, à suivre les livres, pas de l'écrivain, lui, il est dans son petit coin pour produire d'autres livres. C'est peut-être le travail de l'éditeur ou bien de la société à commencer à faire la promotion des livres, à valoriser les écrivains locaux, à introduire dans notre système d'éducation les écrivains congolais pour que même plus tard, même mort, comme Zaminga de Ruse mémoire, on continue toujours à les lire dans une école quelque part. Il n'est pas là pour faire la promotion de son livre dans une école, mais le livre et les noms continuent à marcher même sans que lui soit là physiquement.
Ça vous décourage quand on parle que les gens ne lisent pas? Vous, en tant qu'écrivain, vous dites, bon, en fait, je vais aussi ralentir ou je vais un peu arrêter. Je vais m'arrêter ici, doser un peu. Est-ce que ça vous arrive aussi? Découragé parce que vous avez publié, mais vous sentez qu'il n'y a pas de retombées, il n'y a pas de feedback, les gens ne veulent plus ou ne veulent pas lire.
Non, malheureusement, c'est ça l'ironie de tout. Non, malheureusement, ça ne me décourage pas parce que la plupart d'écrivains n'écrivent pas pour être vendus ou bien lus. Ils écrivent d'abord pour eux-mêmes. Être lu, c'est toujours un plaisir que tout écrivain veut ressentir, mais on écrit souvent par nous-mêmes. On est tellement plein qu'on veut extérioriser ce qu'on a comme ressenti dans le cœur. On a tellement de choses à dire qu'on s'est mis à écrire. Moi, j'ai souvent un principe, je me dis, écrire pour moi, c'est comme jeter une bouteille à la mer. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va échouer, mais je suis sûr que quelqu'un m'ira quelque part et aura mon message entre ses mains. Donc du coup, si j'ai une occasion de motiver les gens à lire, je le ferai volontiers parce que je connais toute la magie, tout le bienfait de la lecture. Non seulement on va on va enrichir son vocabulaire, mais ça a beaucoup d'avantages en tant que médecin, je l'ai dit, sur le cerveau. Le cerveau, sa plasticité est remaniée, la mémoire est travaillée, le langage est travaillé, et tout ça, ce sont les avantages qu'on peut retrouver gratuitement dans, en ouvrant juste un livre. Donc, il y a toute une mine d'or qui se trouve derrière votre page, votre première page du livre. Ouvrez-la, vous allez voir que vous aurez beaucoup de merveilles. Parfois, il y a beaucoup, de, beaucoup d'histoires. Il y a aussi, parfois, je vais introduire une notion rapide. En lisant, par exemple, un roman, on se met à la place de la personne, du personnage principal. On partage l'émotion. Et dans une société, cela peut être un avantage parce que ça va nous permettre à partager les émotions des autres, à comprendre les autres. Donc, il y a tellement d'avantages comme ça de la lecture que si les gens y avaient connaissance, je pense qu'ils s'y remettraient très vite à lire. Mais je ne les en veux pas parce qu'il y a aussi ce côté de livre qui n'est pas disponible. Mais avec le temps, je crois qu'avec des émissions comme ça que vous organisez, des chances comme ça que vous nous donnez à parler aux gens, je crois que ça va les motiver à chercher nos livres, à lire. Peut-être pas mon livre, les livres de Marc, peut-être pas les livres de Marc, une BD de quelqu'un quelque part qui a un message particulier qui va booster la personne à lire. La personne a lu un livre de Marc, demain va vouloir chercher un autre livre qu'il a produit, et ainsi de suite. Et à un moment donné, il va découvrir que j'existe à côté de lui et il va me lire.
Est-ce qu'il y a de l'inconvénient à celui qui ne lit pas ?
Ne lit pas, livre en dur.
Celui qui ne lit pas les livres en dur, si au moins il lit les livres numériques, je ne pense pas qu'il y ait d'inconvénient. Parce que c'est juste le format qui est différent. Mais par contre, celui qui ne lit absolument pas, c'est quelqu'un qui est en train de, je dirais, se tirer une balle ou s'empoisonner. Puisqu'il il va régresser. Ses capacités cognitives disparaîtront à petit feu et il perdra même sa performance. S'il est employé quelque part, il ne sera plus en mesure de faire de grandes choses. La lecture est indispensable, puisque sans elle, l'homme ne peut être à la hauteur des attentes de sa société.
Très bien, merci beaucoup. Je pense que c'est ce qui constitue aussi votre conclusion, parce que nous sommes arrivés à la fin. Sharon, il y a quelque chose à ajouter ?
Oui.
Avant de vous passer la parole pour communiquer, si c'est possible, hein, vos coordonnées pour ceux qui désirent vous joindre.
J'ai déjà beaucoup parlé. Je pense que vos éditeurs, qui sont pour la plupart des intellectuels et des gens, parce qu'on ne peut pas aimer la littérature sans être intellectuel, je les salue et je salue leur persévérance d'être arrivés jusqu'à ces moments de l'émission. Mais je vais juste leur rappeler une citation. Une société ne se construit pas par des pierres, mais elle se construit avec des livres.
Oui, je dirais.
Je termine avec Sharon. Si possible, vous les coordonnées.
Non, ça ne me dérange pas. Okay. C'est toujours un plaisir d'être contacté après une émission. Je suis au 082 415 56 16. 082 415 56 16.
Très bien, merci beaucoup. Monsieur Marc.
Oui, avant de donner mes coordonnées, je vais d'abord parler d'une activité littéraire, justement, qui fera la promotion de la lecture. En effet, il y a un club de lecture tenu par des jeunes qui ont moins de 25 ans, je pense, qui sont à féliciter, qui organise ce 24 janvier à 15h, je pense que ce sera à Lemba Riguini, un barbecue littéraire, où on parlera plus des livres, on échangera des vœux autour de quelque chose, mais l'activité sera centrée sur la lecture, sur l'importance.
Ce sont des activités encouragées, franchement. Ce sont des activités encouragées. Et vous, comme grand ou écrivain, vous devez les encourager aussi. Assister, prendre part aussi. C'est vraiment une activité très intéressante.
Oui, je serai là et je vais aussi inviter une ou deux personnes
très bien
pour m'accompagner.
Je serai aussi là.
Ah, là, c'est une bonne chose.
Une bonne chose.
Alors, allez, vos coordonnées.
Oui, on peut me suivre dans mon page Facebook en écrivant Marc Kaninda. Oui, je suis là. Mon numéro, c'est le 082 272 27 56. 082 272 27 56. Donc, le livre qui avait remporté le prix européen de la littérature congolaise et le prix de la diaspora congolaise est aussi disponible. Et c'est lui qui en a besoin. L'implacable Kinshasa, je rappelle le titre. Celui qui en a besoin peut me contacter et c'est à 10 $ toujours.
Très bien, merci beaucoup. 1 $ toujours Voilà pourquoi on vous fuit à des fois, hein, parce que vous êtes en dollars. C'est un plaisir pour moi de vous avoir sur ces plateaux avec des réflexions pertinentes comme ça. Nous, on a fait notre part, auditeurs et internautes, à vous de mettre en branle tout ce qui s'est dit ici, parce que c'est pour votre bien. Hein, c'est pour votre avenir, l'avenir de vos enfants. C'est aussi pour le développement de votre intelligence. L'émission est terminée. On vous fixe rendez-vous très prochainement. Je vous rassure qu'il sera encore des retours pour nous parler ou pour parler d'un sujet encore très important. Nous voulons que la lecture demeure un exercice quotidien chez vous, chaque jour, au moins par jour. On peut lire combien de fois?
On peut lire par jour même pendant une heure du temps. Ça dépend d'une personne à une autre. Mais moi, je ne peux pas passer un jour sans lire.
On peut passer une journée sans jeter un coup d'œil?
Non, moi je peux dire, je ne fixerai pas le nombre de fois, je peux dire, on peut lire autant de fois qu'on le pourra. On peut lire peut-être debout, on peut lire assis, on peut lire couché. Il y a tout le temps de manière de lire, mais dormir sans lire, c'est un péché capital contre soi-même. Faut pas. Et d'ailleurs, je voudrais bien donner un devoir à nos éditeurs, après cette émission, qui n'aimerait pas aller lire quelque part, quelque chose.
Exactement. Merci beaucoup. Merci à Gaylor Kamango qui était de l'autre côté de la technique. On fixe rendez-vous très prochainement. Restez nos fidèles, surtout à l'écoute de la fréquence maternelle. Cette émission sera podcastée sur les sites web de Radio Maria, www.radiomaria.cd. Pour ceux qui désirent réécouter, télécharger, l'émission sera disponible dans les heures qui suivent. Au revoir.
Pensée écrite.
Pensée écrite.
Vous désirez améliorer votre connaissance,
découvrir la vie et les cultures des autres?
Suivez l'émission Pensée écrite.
Pensée écrite.
Chaque page qui vous entoure renforce les tissus des connaissances dans votre esprit
et vous aide à mieux comprendre le monde qui vous entoure.
Pensée écrite.
À suivre sur Radio Maria.
Fréquence 89.9.
Animateur
Bob Kilongo.